Alors, c'est Alain Pronkin qui intervenait dans l'émission de Paulude en fin de semaine et donc qui commentait cette nouvelle qui est sortie en fin de semaine sous la plume d'Émilie Bilodeau. Dans une église orthodoxe grecque de Laval, ils ont utilisé la même cuillère pour donner la communion à tout près de 350 personnes, alors qu'ils auraient dû utiliser une cuillère différente pour chaque fidèle. Mais visiblement, le message, le mémo, s'est pas rendu jusqu'à Laval. Et puis là, regarde, moi, je trouve ça, honnêtement, sur le bord de l'irresponsabilité. Mais il faut pas partir en peur, parce que quand tu lis l'article, tu t'aperçois que la docteure Quash, ci-devant microbiologiste, infectiologue, pédiatre, etc., etc., à Sainte-Justine, elle dit pas que c'est une bonne idée, mais elle dit pas de panique sur le Titanic. Docteur Quash, bonjour.
Bonjour, M. Drainville. Je pensais qu'on parlait des écoles.
Content de vous retrouver. Ah oui, bon, on peut parler des écoles aussi, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu d'abord de cette cuillère utilisée par 350 fidèles pour donner la communion dans cette église orthodoxe de Laval?
Oui.
Il n'y a pas de risque de transmission de la COVID d'une personne à l'autre quand on utilise la même cuillère?
Écoutez, le risque n'est pas aussi grand que quand on est en face à face et que nos sécrétions respiratoires atterrissent dans le nez, la bouche et les yeux de la personne en face. Ce qu'on sait maintenant de la COVID, c'est que le meilleur moyen de transmission, c'est vraiment par les gouttelettes respiratoires. Alors, dans la salive, c'est sûr qu'il peut y avoir des gouttelettes de sécrétions respiratoires. Là, ça, tout se mélange dans notre bouche. Mais ensuite, quand on repasse cette cuillère-là dans la bouche du suivant, il peut y avoir un peu de virus, mais de façon générale, c'est pas une transmission qui est fécale-orale. C'est vraiment une transmission qui, vraiment, il faut que la gouttelette aille atterrir dans le fond de ma gorge. Alors, dans la cuillère, en général, il ne devrait y en avoir trop de virus, mais on peut quand même en trouver. Et on sait que dans la salive, quand je fais un bon crachat, là, je suis capable de trouver du virus qui se multiplie encore, donc qui est encore vivant. Donc c'est loin d'être une bonne idée, mais c'est pas... Il aurait pu avoir pire, disons.
OK, donc juste pour être bien clair, il peut y avoir, mettons, quelqu'un qui aurait la COVID, qui prend la cuillère dans sa bouche, pourrait laisser de la COVID, tu sais, des particules de virus ou des virus sur la cuillère, mais la quantité ne serait pas suffisante pour infecter la personne qui viendrait après?
Oui, surtout si la personne qui a la COVID ne vient pas de faire un gros raclement de gorge pour ramener toutes ses sécrétions respiratoires dans sa bouche.
OK.
Alors, il faut vraiment qu'il y ait un mélange entre la salive et les sécrétions respiratoires pour que ce soit problématique. Mais bon, comme je l'ai dit, là, c'est loin d'être une bonne idée. Il y avait d'autres virus qui se transmettaient aussi par la salive et qui se transmettent bien mieux par la salive que le coronavirus.
OK. Donc, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez vous y reprendre, organisez-vous pour qu'il y ait une cuillère pour tout le monde. Mais faut pas non plus paniquer avec ça. Là, c'est ce que je retiens de votre propos, Dr Quash.
Tout à fait. Bon. Et je pense que tous les fidèles avaient un masque et le prêtre aussi.
Bon.
Sauf, évidemment, au moment de la communion.
OK. Parlons des écoles. On est souple dans cette émission. Dites-moi comment vous réagissez au plan de retour à l'école. Est-ce que vous êtes plutôt encouragé?
Ben, je pense que c'est mieux que ce qui avait été proposé auparavant. Il y a des choses qui ont été améliorées dans le sens où maintenant il n'y a plus de sous-bulles par classe là, qui étaient difficilement applicables et qui changeaient rien en fait au risque de transmission dans la classe. Il y a le port du masque maintenant dans les lieux communs pour les 10 ans et plus.
Oui.
Et il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour que les parents puissent faire tester leur enfant facilement quand il y a des symptômes. Et il y a tout un autre travail par derrière qui est aussi en train d'être fait pour que l'échantillonnage soit pas aussi difficile à faire. Parce que présentement, l'échantillonnage, c'est un nasopharyngé. Donc, on prend l'écouvillon puis on le rentre assez loin, qui est désagréable.
Oui.
Mais donc, ce qu'on essaie de voir, c'est ce qu'on est capable de faire, soit juste dans le nez ou par la salive aussi, chez les enfants, pour être capable de rendre ce test-là plus acceptable pour le petit.
Sentez-vous, Dr Quash, qu'on est prêt pour la rentrée scolaire de façon générale? Est-ce que, tu sais, on est prêt ou est-ce que vous avez de l'inquiétude, vous?
Ben, c'est difficile pour moi parce que je suis pas dans les écoles. Alors, je peux juste vous dire que l'école où mon fils va est pas pire pantoute, parce que j'ai parlé au directeur en fin de semaine. Est-ce que c'est le même niveau de préparation ailleurs? Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont bien prêtes. On regarde à l'extérieur de la région de Montréal, la plupart des écoles avaient quand même vécu une rentrée scolaire au printemps, donc ils étaient un peu plus prêts. C'est sûr qu'on peut toujours être davantage, on peut être plus prêts, là, mais on est quand même, je pense qu'il y a quand même un bon plan, il y a une bonne base. C'est certain qu'il y a des choses qui vont devoir être aménagées puis réajustées au fil des jours et des semaines. Mais comme point de départ, je trouve que c'est pas pire.
OK. Évidemment, il va falloir que le réseau scolaire et le réseau de la santé travaillent ensemble. Là il va falloir que ces deux mammouths-là se donnent la main. Là, parce que, je veux dire, prenons le cas d'une école où il y a une éclosion, il va falloir que le secteur de la santé s'en mêle et que des spécialistes de la santé viennent s'en occuper. Là, il va vraiment falloir que nos deux grands réseaux, qui ne sont pas toujours réputés pour leur souplesse puis leur efficacité, donnent des résultats. Là.
C'est vrai, mais je vous dirais que je suis encouragée parce que ce qui est demandé présentement, c'est qu'au niveau régional, l'éducation travaille avec la santé et ça a l'air de se faire. Au niveau provincial, ça se fait aussi. Donc, je pense qu'autour de ce grand enjeu-là, tout le monde réalise que si on travaille pas ensemble, ça marchera pas. Et c'est ce qui est en train de se faire. Est-ce que ça va être parfait? Certainement pas, mais on peut pas demander la perfection dans ce contexte-ci. Il faut juste qu'on continue à se parler puis qu'on ajuste, parce que la santé va donner des lignes directrices. L'éducation va dire, mais c'est peut-être pas applicable. Alors, ça prend des allers-retours pour qu'on soit capable d'avoir quelque chose qui permette à nos enfants d'aller à l'école puis d'avoir un peu de plaisir quand même aussi tout en apprenant, là.
Docteur Caroline Couache, c'est toujours un plaisir. Je sens que c'est pas la dernière fois que nous allons nous parler dans les prochaines semaines. Je rappelle évidemment que vous êtes pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste à Sainte-Justine. Je sais pas si vous avez eu des vacances, je l'espère, Docteur Couache, mais à tout le moins, c'est toujours plaisant de vous jaser. Merci d'être là.
C'est gentil, merci. Bonne fin de journée.
À la prochaine. Je vous parlais du secteur de la santé. Vous avez vu la sortie, peut-être? Avez-vous vu la sortie de François Legault, notre premier ministre, qui a dit, pour la deuxième vague, là, il va falloir que les dirigeants du réseau de la santé soient imputables. Et Luc Lavoie a une petite réflexion sur le sujet après la pause.